Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Le G20 se réunit aujourd'hui à Antalya, c'est au sud de la Turquie, pour son sommet annuel. La Turquie, qui exerce la présidence de cette réunion, a tenu à inscrire la crise des migrants qui frappe l'Europe à son agenda, car l'humanité tout entière doit contribuer à sa résolution, dit-elle. Il est vrai que la présence sur son territoire de 2 millions de réfugiés syriens pose au pays des problèmes considérables, alors que l'Europe est en grande difficulté face à cet exode massif dont elle est la destination finale. Alors qu'est-ce que peut faire le G20 pour aider à résoudre la crise provoquée par l'afflux massif de migrants en Europe ? Le G20 est-elle la bonne instance pour parler migration ? On va en débattre ce soir avec deux invités que je vous présente tout de suite. Thomas Lacroix est chargé de recherche au CNRS, il est directeur adjoint du laboratoire Migrinter, docteur en géographie, en sciences politiques, spécialiste des questions migratoires, auteur d'un écrit en anglais, Thomas Lacroix, dont la traduction française serait « Transnationalisme villageois », c'est aux éditions Palgrave, c'est publié aujourd'hui, et vous êtes en ligne de Tours, où, c'est dans le centre de la France, Tours, où vous résidez. Bonsoir à vous Thomas Lacroix.
Bonsoir.
Et puis Stefano Scarpetta est lui le directeur de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique. Il est en ligne d'Antalya, c'est en Turquie, donc où il participe à ce sommet du G20. Bonsoir Stefano Scarpetta. Vous m'entendez ?
Bonsoir à vous.
Très bien. Alors, je vais m'adresser d'abord à vous, Stefano Scarpetta, parce que on pourrait essayer d'abord de comprendre pourquoi la Turquie a-t-elle insisté pour mettre la crise des migrants que connaît l'Europe à l'agenda de ce G20.
Mais la raison, vous l'avez mentionné vous-même, parce que la Turquie est en première ligne. Il y a effectivement plus de 2 millions de Syriens qui sont en Turquie. Il y a aussi 300 000 entre Irakiens, Afghans et Pakistanais. Et surtout parce qu'évidemment, la Turquie, c'est un pays clé aussi pour tous les flux qui arrivent en Europe. Et je crois que les messages, il faut voir évidemment quand les leaders se vont en parler, c'est qu'une réponse à cette crise humanitaire qui est très, très importante, ça doit être une réponse forte, une réponse compréhensive, une réponse qui soit coordonnée à niveau global. Donc qui implique évidemment tous les pays du G20 et d'autres pays, évidemment les pays aussi européens qui sont en première ligne. Donc il me semble une démarche très importante, positive, qui soit aussi amenée à la discussion de leaders qui se réunissent ici à Antalya pour la réunion du G20.
Thomas Lacroix, est-ce que la Turquie peut compter sur l'Europe pour les accueillir tous, ces 2 millions de réfugiés qui sont sur son territoire en ce moment, 2 300 000, vient de spécifier Stefano Scarpetta?
Alors là, ça m'étonnerait. C'est tout. Je pense que la discussion ne va pas tourner sur cette question-là. Hein. La discussion sera plutôt comment aider la Turquie à garder ses migrants. En tout cas, c'est du point de vue de l'Europe, c'est ce qui va être négocié. Bon, j'imagine que la Turquie met cette question à cet agenda et profite du G20, qui n'est pas une instance qui est faite a priori pour débattre des questions migratoires. Enfin, on profite pour essayer de jouer à domicile et d'être en position de force dans ces négociations avec l'Union européenne, ça c'est certain.
Le G20 n'est pas une instance qui a pour vocation d'intervenir dans ce type de problème, Stefano Scarpetta, vous êtes d'accord ?
Donc, vous savez, le G20 traite de beaucoup de questions qui sont d'ordre international et à niveau global. Évidemment, la crise des réfugiés, la crise humanitaire qu'on vit dans ces jours-ci, c'est une crise importante qui, comme on l'a dit, touche tous les pays, touche la Turquie, touche l'Europe, mais touche aussi d'autres pays. Et donc, c'est important que cette discussion soit menée aussi au sommet du G20. Évidemment, le 2 300 000 qui sont aujourd'hui en Turquie, la question, ce n'est pas simplement de les déplacer, mais c'est surtout de donner une aide aussi à la Turquie pour pouvoir faire face aux problèmes majeurs qui elle-même doit affronter justement pour la gestion de ces nombres très importants de réfugiés. Et donc c'est la collaboration, c'est la coopération internationale qui, je crois, est en jeu et qui est très importante de renforcer parce qu'effectivement, c'est la seule pour pouvoir effectivement donner une réponse qui soit vraiment compréhensive à cette question majeure. Mais aucun pays, la Turquie, aucun pays européen pourrait la résoudre tout seul.
Une réponse à cette question-là se trouve dans le financement de ce problème. Et l'argent semble être aussi le nerf de cette guerre-là. Où le trouver, cet argent ?
C'est une bonne question. Donc, de mon côté, j'espère, parce que c'est une discussion qu'il y aura un sommet avec les leaders européens, mais aussi les présidents turcs, justement pour discuter de comment renforcer la coopération. Il faut savoir que certains pays européens ont mis déjà à côté des sommes importantes justement pour gérer l'aide aux demandeurs d'asile dans leur pays. Les chiffres varient d'un pays à l'autre, mais l'Union européenne a mis d'à côté plus de 9 milliards d'euros. L'Allemagne, on parle d'un chiffre qui est presque 0,4% du PIB pour 2016-2017. L'Autriche, 0,3% du PIB. La Suède, presque 1% du PIB en 2016. Et la Turquie elle-même, qui a déjà dépensé des chiffres considérables, c'est presque 0,8% du PIB en 2014. Donc il y a des sommes qui sont importantes, qui sont absolument nécessaires pour donner un premier soutien, une première aide à ce nombre très important de demandeurs d'asile ou de réfugiés dans les pays.
Et des sommes qui vont pouvoir être mobilisées à cette occasion pour tenter de résoudre le problème qui se pose en ce moment à l'occasion de cette crise migratoire, vous pensez ?
Mais il y a un problème, parce qu'évidemment, il y a un problème humanitaire. Il faut absolument donner des moyens pour pouvoir aider de façon efficace tous les demandeurs d'asile qui sont déjà dans les pays, qui sont à la fois en Turquie ou qui sont déjà dans les pays européens. Et c'est là, on a certains secteurs d'estimation qu'on a fait à un niveau européen, ça représente 0,1-0,2% du PIB. Et ce sont de l'argent qui va tout de suite dépenser. Donc ça donne aussi un stimulus sur la demande interne à niveau européen. Évidemment, là, on parle d'une crise humanitaire, donc c'est de cette façon-là qu'il faut l'aborder, mais il pourra avoir aussi un effet positif en termes de demandes internes en Europe.
Mmh. Les racines de cette crise se trouvent hors de l'Union européenne, on le comprend bien. C'est la guerre en Syrie, c'est l'insécurité en Afghanistan, c'est la misère au Bangladesh, la dictature en Érythrée. Est-ce que, Thomas Lacroix, ce ne serait pas à l'ONU de gérer cette crise ?
Oui, juste pour revenir sur l'importance de l'aide financière, elle est d'autant plus opportune que l'hiver arrive et on sait dans les conditions dans lesquelles ont résidé ces réfugiés l'hiver dernier, ça a été c'était extrêmement pénible. Donc là, effectivement, il y a une urgence avec les températures qui vont changer. Ceci dit, pour revenir à votre question à propos de l'ONU, effectivement, l'ONU essaye d'avancer sur cette question de la. Le problème, c'est l'absence d'arènes multilatérales dans lesquelles peuvent se discuter ces questions de migration avec un débat qui puisse rassembler à la fois les États récepteurs et les États émetteurs de main-d'œuvre. Cette instance, elle n'existe, enfin, il y en a, elles existent. Par exemple, l'ONU a mis en place à partir de 2006 ce qu'on appelle le Forum global sur migration et développement. C'est un processus, une instance qui se réunit tous les ans et qui rassemble tous les représentants des États du monde. Donc c'est extrêmement intéressant, mais en même temps c'est une instance qui n'a pas de pouvoir très contraignant. Donc on discute beaucoup, mais il n'y a pas de mise en place effective de réglementation qui pourrait aborder de façon, enfin sur un point de vue autre que sécuritaire, cette question de la migration.
Mmh. Est-ce que le G20 peut faire quelque chose alors pour vous ?
Est-ce que le G20, ce qui est intéressant dans le G20, c'est qu'effectivement c'est une instance multilatérale qui regroupe des pays de différents bords, hein, dont la Turquie. Le problème, c'est qu'il y a d'autres États qui sont concernés par cette crise migratoire qui sont absents, je pense au Liban, je pense à la Jordanie, et qui pourraient, enfin je ne sais pas s'ils ont été invités à discuter au cours de ce G20, peut-être que Stefano Scarpetta pourra nous le dire. Enfin, ce serait intéressant que ces États puissent être présents également.
Mmh. Mais est-ce que cet appel aux instances internationales n'est pas un moyen pour l'Europe, finalement, d'avouer son impuissance face aux problèmes et de demander de l'aide aux grandes puissances mondiales, Thomas Lacroix ?
La impuissance, bon, si vous voulez, c'est difficile parce que c'est une crise d'une ampleur qui est quand même assez unique. Ceci dit, effectivement, on aurait pu mettre en place des mesures pour anticiper les difficultés. Je pense par exemple à cet afflux qui a eu lieu cet été. On sait par exemple à travers l'observation d'autres situations, d'autres camps, d'autres situations de crise de réfugiés, que dans un premier temps, si vous voulez, les réfugiés ont tendance à se déplacer le plus près possible de leur ancien domicile. Hein, donc de se déplacer soit dans la région d'à côté, soit dans le pays d'à côté, pour essayer de trouver un refuge le temps que la crise se passe. Or, on sait que lorsqu'il y a une pérennisation de la situation, les conditions de vie s'aggravent et les gens essayent de trouver un emploi un peu plus loin et donc vont partir pour essayer de trouver un espace, un lieu pour pouvoir se projeter plus avant dans l'avenir. Mmh. Donc, à partir de ces observations-là, effectivement, on aurait pu anticiper cette crise-là. Mais ceci dit, je reviens là-dessus, hein, l'ampleur des mouvements, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Mmh.
Parce qu'on a un petit peu l'impression que l'Europe subit cette crise, hein, sans vraiment pouvoir participer à sa résolution. Il y avait par exemple aucun Européen à la réunion sur la Syrie où se sont retrouvés les Russes, les Américains, les Turcs et les Saoudiens, alors qu'elle avait lieu à Vienne, au cœur de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, Stefano Scarpetta? C'est un domaine plus politique économique, mais est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment d'impuissance de l'Europe à résoudre une crise qui, il est vrai, est colossale?
Donc vous avez dit, c'est hautement politique et c'est très très compliqué à gérer. Donc il y a différentes dimensions qu'il faut prendre en compte tous ensemble. Donc c'est sûr que il y a eu aussi de la part de la population un sens d'impuissance et je crois que la réponse, encore une fois, c'est d'intervenir à l'intérieur de chacun des pays pour faire face à ces flux qui sont de très importants dans certains pays, mais aussi avec un dialogue, un débat à niveau international. C'est pour cela que cette réunion, cette partie de la réunion qui va être dédiée justement à la crise humanitaire, c'est un point important dans une démarche qui doit continuer dans les temps, justement pour renforcer cette collaboration, cette coordination à niveau international. Et ce n'est pas seulement un problème européen, c'est pour ça que c'est très important d'impliquer la Turquie à fond, c'est très important d'avoir d'autres pays importants qui font partie du G20 autour de la même table pour discuter de tous les différents facteurs, qu'ils soient les facteurs qui, en quelque mesure, ont déterminé cette flux migratoire très importante, et de l'autre côté, faire face à la première instance de réponse, qui quand même touche surtout la Turquie d'un côté et les pays européens dans lesquels les réfugiés sont arrivés. C'est une étape, c'est pas la fin du processus, mais c'est très important parce que, encore une fois, les enjeux politiques, économiques, sociaux et humanitaires sont majeurs. Et, encore une fois, ça c'est le point que le président turc a bien mentionné hier, il y a évidemment des risques que ces flux puissent augmenter ultérieurement. Donc il y a 2 millions de Syriens en Turquie aujourd'hui, mais lui il a dit qu'il y en a peut-être 2 millions qui pourront quand même arriver en Turquie si les choses ne s'améliorent pas en Syrie. Donc évidemment déjà on est en crise majeure et donc la nécessité de donner une réponse à tous ceux qui sont déjà arrivés en Europe, mais il y a malheureusement aussi des flux très importants, d'un nombre important d'individus qui pourront arriver en Turquie et donc de la Turquie après se déplacer en Europe.
Mmh. 3 millions.
C'est une partie du processus, mais il faut qu'il y ait un débat à l'intérieur de l'Europe, mais aussi à niveau international. Mmh.
Ben, 3 millions de migrants qui pourraient arriver en Europe d'ici la fin 2017, c'est un scénario qui a été mis en avant par la Commission européenne dans un document qui a été dévoilé jeudi dernier donc à Bruxelles sur l'impact économique de cette crise. On peut se demander, Thomas Lacroix, si la mobilisation est à la hauteur du défi, finalement. Vous aviez l'air d'en douter tout à l'heure, vous confirmez?
Oui, enfin, la position de l'Europe sur ces questions migratoires a toujours été réactive hein, depuis le début de la crise. Hein. Il n'y a pas eu d'anticipation notable. Les chefs d'État se réunissent à la dernière minute. Bon, évidemment, c'est un problème qui est politique dans la mesure où les États entre eux ne sont pas d'accord sur l'attitude adoptée, mais en plus de ça, au sein même des États, vous avez des enjeux politiques, des fractures de l'opinion publique et des fractures partisanes qui aussi empêchent d'avancer sur cette question-là. Il n'y a pas de mobilisation fédératrice autour de cette question ne pourra être gérée que si l'ensemble des États européens se mobilisent.
L'accélération des flux met, on peut le dire, pratiquement déjà à l'épreuve les différents dispositifs qui ont été agréés ces dernières semaines au prix de tractation, on s'en souvient, qui ont été difficiles. On peut se poser la question de savoir si on risque pas une situation de blocage, une situation de trop-plein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le problème, c'est que le régime migratoire européen a été pensé à flux constant. C'est-à-dire, il a fait toute l'approche européenne de la gestion des flux se fonde sur une idée que les flux migratoires doivent être constants, gérés. Or, il y a toute cette dimension de l'association entre crise et flux migratoire, elle a été laissée de côté, et donc il y a effectivement une incapacité, les États sont devant le fait accompli, quoi. Il n'y a pas de préparation pour ce type d'enjeu.
J'aimerais l'avis de Stefano Scarpetta sur ce point, cette possibilité d'un blocage, d'un trop-plein. Est-ce que vous êtes optimiste, vous pensez que, interpeller les instances internationales comme l'Europe le fait en ce moment auprès du G20 peut arriver à débloquer la situation?
Je crois que tout seul, non. Et c'est difficile d'être optimiste, mais je crois qu'il faut absolument effectivement donner une réponse. Je crois que je suis d'accord avec ce qui était dit, donc que l'Europe a plutôt une attitude réactive et que sa politique est plutôt basée sur des flux d'immigration constante, alors que là, on est en train de voir des flux qui ont augmenté énormément avec des caractéristiques assez différentes. Et donc, il faut vraiment accélérer un peu les débats, les dialogues à travers les pays européens, mais aussi, comme je disais, à niveau international.
D'autant
c'est vraiment l'ensemble de différents débats qui peuvent donner une réponse, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps, parce qu'il y a déjà beaucoup des demandeurs d'asile qui sont déjà en Europe, auxquels il faut donner justement du soutien. Et beaucoup d'entre eux, ils auront les statuts de réfugiés. Et donc aussi, il faut considérer déjà les politiques pour les intégrer dans nos systèmes économiques et sur les marchés d'oeuvre. Alors, les 3 millions à la fin de 2017, c'est difficile parce qu'on peut, c'est très, très compliqué de faire des prévisions là. Mais nous, on a fait des estimations sur l'impact que tout cela pourrait avoir. Donc, les flux qui s'y continuent, même à des niveaux, au niveau qu'on a vu pendant les derniers mois, jusqu'à la fin 2016, il y aura tenant compte le temps que ça prend pour faire tout le processus pour les demandeurs d'asile, tenant compte le taux de participation et tout autre facteur, et avec beaucoup d'incertitudes, donc on pourrait avoir 1 million de plus, qui rentrent sur le marché d'oeuvre. Et sachant que l'Europe, tous les ans, plus ou moins, reçoit 1 million de migrants économiques. Évidemment, les caractéristiques ne sont pas les mêmes, des problèmes beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus compliqués pour les intégrer à nos économies, dans notre système, dans notre marché du travail, mais disons qu'un pas. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, et même avec l'hypothèse des flux qui restent à un niveau très important qu'on a vu dans les derniers mois, pourront amener à la fin 2016 à un peu plus d'un million de gens qui rentreront sur les marchés du travail dans les pays européens.
De l'argent, il y a plein de choses que j'aurais voulu évoquer. On arrive malheureusement à la fin de cette émission parce que, et je pense à cet argent dont on a besoin pour résoudre ces crises. On sait qu'il en faudra aussi beaucoup pour aider les pays en voie de développement à lutter contre le réchauffement climatique. On finit par se poser la question de savoir si finalement l'humanité a désormais les moyens de lutter contre les problèmes multiples, les moyens financiers de lutter contre les problèmes multiples auxquels elle fait face, Stefano Scarpetta.
Non, c'est sûr que l'économie internationale, on a beaucoup de problèmes qui sont d'ordre majeur et qu'il faut encore une fois avoir une réponse qui soit coordonnée à travers les différents pays. Et surtout, il y a des problèmes de très court terme auxquels il faut donner une réponse et évidemment des problèmes à plus moyen terme sur lesquels il faut déjà poser les bases pour une réponse qui soit importante. Donc on ne peut pas seulement s'occuper d'une chose et pas de l'autre. Il faut effectivement, avec aussi la collaboration, les débats à niveau international, voir les réponses qu'il faut donner selon aussi les priorités et les urgences qu'on a.
Thomas Lacroix, sur ce point et en quelques secondes pour conclure cette émission.
Oui, pour finir sur une note peut-être un peu plus positive, il faut peut-être relativiser, même si les chiffres en valeur absolue ont l'air colossaux, ça ne représente qu'une petite fraction de la population européenne dans l'ensemble. Donc la gestion, elle est tout à fait possible, mais à la condition effectivement qu'il y ait une mobilisation coordonnée entre les États.
Bon, eh bien écoutez, on n'en dira pas plus ce soir. Merci de cette note positive pour terminer cette émission. Thomas Lacroix, chargé de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire Migrinter. Je rappelle, vous avez écrit en anglais, et ça sort aujourd'hui, la traduction française vous avez écrit « Transnationalisme villageois » aux éditions Palgrève. C'est en anglais, mais ça a été traduit en français, ou ça le sera peut-être, publié donc à Palgrève, je viens de le dire. Merci de votre collaboration, vous étiez en ligne de tour, et Stefano Scarpetta, directeur de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. Vous étiez, vous, en ligne d'Antalya, en Turquie, où vous participez à ce sommet du G20. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission et à Ovidio D'Assouza qui l'a réalisée. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur le site internet de RFI. Bonsoir à tous. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI.